Bienvenue sur Je suis écrivaine, le podcast qui me permet de le clamer haut et fort parce que je n'ai pas assez osé le dire. Je suis Emma Bonnet, écrivaine depuis plus de 12 ans, avec 13 romans achevés à mon actif et publiés depuis peu. Passionnée d'écriture, de lecture et de tout ce qui est synonyme de création, je partage ici mon expérience avec l'espoir de vous motiver, de vous inspirer, que vous soyez auteur, lecteur, les deux ou aucun. Écrire un roman et le publier, découvrir le monde de l'édition et s'y faire une place, participer à des salons et à des séances de dédicaces, voilà ce dont on parlera dans ce podcast. Grâce à mes années d'écriture, de nombreuses formations, des stages et des collaborations en maison d'édition, je vous partage ce que j'ai appris et ce que je continuerai d'apprendre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @mabonnetécrivaine, et vous abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement le premier chapitre de mon roman. Bonne écoute! Bonjour Gaëlle.
Salut Emma.
Je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast. Bienvenue. Tu es ma deuxième invitée, mais ma première en visio.
Ouais, je suis trop fière de ça.
Moi aussi, en plus, depuis le temps qu'on essaie de se faire ce petit enregistrement, je pense que ça fait 3 mois, un truc comme ça.
À peu près.
Écoute, pour commencer, tu t'y attends, je vais te demander de te présenter comme tu le veux.
Comme je le veux, ok. Alors, je vais me présenter en disant que je m'appelle Gaëlle. je suis créative, je suis écrivaine, autrice, voilà. Et,
tu préfères quoi, toi, comme nom ?
Eh bien, j'aime bien autrice.
Ouais, moi aussi.
Ouais, j'aime bien dire autrice. Puis en plus, ça permet d'avoir en face des gens un peu sceptiques et puis de leur répondre que ce mot existe et puis d'affirmer ça. Donc, j'aime bien.
Je suis d'accord. Et... Tu sais que je l'ai dit à la radio, moi, quand elle m'a demandé à la radio. Tu l'avais entendu peut-être l'enregistrement.
Non,
et je lui avais dit que c'était un mot qui existait, en fait, qui à une époque était utilisé. Et j'étais trop fière de placer ça.
Oui, bah chacun ses petites victoires en fait. Chacune ses petites victoires aussi, surtout.
Exactement.
Voilà. Donc, créative, je crois que c'est le mot qui me présente le mieux. Et parce que j'aime mettre de la créativité un petit peu partout dans ma vie. Et tu vois, bah en ce moment, je suis en reconversion puisque je suis coach littéraire depuis peu de temps. Et ça me permet aussi d'exercer ma créativité de manière un peu différente au service des écrivains.
Vraiment top. J'aime bien comment tu le présentes. Bah justement, c'est pour ça aussi que je voulais parler avec toi par rapport à ta reconversion. Genre, je trouve que c'est trop intéressant. Du coup, je voulais commencer par... tu étais prof de français. Est-ce que tu l'es toujours d'ailleurs ?
Je suis toujours à 80%.
Ok, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Donc, je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qui t'avait poussé à faire ce métier ? Et à quel moment ça a switché ?
Le métier de prof, d'abord ?
Ouais. Ouais.
Eh bien, écoute, le métier de prof... alors, en fait, en quatrième, moi, je voulais écrire au tableau, à craie. Donc, je me suis dit, pour écrire au tableau à craie, il faut être prof. Donc, je voulais être prof de maths, du coup, parce que c'est ceux qui écrivaient le plus au tableau. Donc, c'est pour ça que j'avais une grande motivation pour ça. Donc, quand je fais réfléchir mes élèves à l'orientation, j'ai toujours ça en tête en me disant, en quatrième, c'était ça mon objectif. Donc, voilà. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas tellement douée pour les sciences, même si j'ai fait un bac S et tout. Et que, en fait, j'adorais écrire. Et j'ai gagné un concours de nouvelles quand j'étais en terminale. Et ma prof de français et ma prof de philo à l'époque m'ont dit « tu devrais faire littéraire ». Et je me suis dit « ah, c'est cool, je vais faire littéraire. Comme ça, je vais apprendre à écrire aussi. » Enfin, je vais, voilà. En fait, pas du tout. Mais par contre, j'ai adoré faire des études de lettres. J'ai fait des études de psycho aussi en même temps. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est cohérent ma reconversion parce que je suis toujours très intéressée par le fonctionnement du cerveau humain. Et donc, j'ai fait prof de lettres. Et... ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, alors je l'ai fait aussi parce que mon papa est dyslexique. Et ça, c'est pour la partie psycho, si tu veux. En fait, fait, mon père est un grand dyslexique, traumatisé de l'école, et je pense que j'ai fait prof aussi pour réparer un petit peu ce que l'école lui avait fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et voilà, j'ai décidé de me reconvertir le mois où il a pris sa retraite. Tu vois, très symbolique.
Mais comme quoi, tout était lié. Hein.
Ouais.
Mais je savais pas oui, qu'il y avait eu de la psycho dans tes études.
Ouais, j'ai fait un an, mais si tu veux, bon, comme je le faisais en même temps que lettres, j'ai pris que les cours qui me plaisaient.
Ok.
Et c'était drôlement intéressant, ouais.
Donc du coup, ça fait combien de temps que t'es prof de français ?
Eh ben, ça fait 15 ans. Ouais, okay. 14 ans. Oui. Tu vois, c'est des chiffres. Enfin, tu vois, j'ai commencé en 2008, j'étais stagiaire. Les gens calculeront.
Okay. Mais après, t'aimes ce métier, non ?
Oui, j'aime ce métier. En fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est accompagner les jeunes. Mmh. Tu vois, j'adore faire cours. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Tout le reste me plaît moins.
Oh. Ah oui, oui, les copies,
Ouais.
Les conseils de classe.
Voilà, les réunions, les machins. Ouais, c'est moins. Mais bon.
Je comprends. Mmh. Bah, moi, perso, toutes mes profs de français, je les ai adorées. Et je pense qu'elles m'aimaient bien aussi. C'était ma matière préférée. Donc. Ça me fait... Du coup, quand j'ai appris que t'étais prof de français, j'étais en mode « Ah, trop bien !» Parce que du coup, pour le petit contexte, pour les gens qui nous écoutent, on s'est rencontrés par le biais de la formation LICAR. Mm. On était dans la même promo. Et on a formé un petit groupe d'entraide pendant le cours de la formation pour rendre nos exercices. C'était cool. C'était pour te motiver et tout.
Ouais, c'était cool. C'est vrai que c'était comme ça. C'est chouette. Quand j'y pense.
Ouais. Mais moi, je suis trop contente en plus d'avoir toujours le contact avec notre team Artemis et de faire des trucs ensemble. Notre week-end, j'ai trop hâte.
Ouais, oui, ça va être trop bien.
Ça va être trop bien. Et par rapport à l'ICAR, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à la formation ?
Alors, en fait, j'ai un projet de roman depuis l'âge de 12 ans. Je veux raconter une histoire familiale parce que j'ai découvert. En fait, quand j'avais fait pour un magazine un concours autour de la généalogie, et j'avais découvert en regardant les papiers de ma famille, quoi, un certificat de naissance sur lequel était écrit a été, attends, c'était quoi ? C'était a été adopté. Enfin, il parlait de mon arrière-grand-père qui a été adopté à l'âge de 5 ans et qui a pris le nom de son beau-père le jour du mariage de sa mère. Et là, j'ai commencé à poser des questions et en fait, est sortie une histoire de famille que j'ai envie de raconter depuis. Je la raconte ou pas ? Mon arrière-grand-mère, à 18 ans, est tombée amoureuse d'un ouvrier agricole russe, qui était donc de passage, tu vois, pour les moissons. Et puis, ils sont tombés amoureux et ensuite il est reparti à pied en Russie chercher ses papiers pour se marier avec elle. Sauf que ça lui a pris un peu plus de temps que prévu et qu'elle était enceinte et donc elle a eu cet enfant et quand et puis elle s'est mariée et quand il est revenu son amoureux elle était mariée et elle avait un enfant.
Oh, je comprends que tu as envie d'écrire.
Et en fait, cette histoire, elle me tient depuis super longtemps. Et je sais pas, il y a des choses qui bloquent, peut-être que j'ai mis trop de pression derrière, peut-être que c'est lourd parce que toute ma famille sait que je vais l'écrire, etc. Et donc, je m'étais dit, là, cette formation LICAR, c'est l'occasion de me pousser au derrière et puis d'aller dégommer quelques pensées limitantes et de me mettre au travail. Et donc, j'ai fait durant la formation le plan, j'ai commencé à écrire. Et là, tu vois, je l'ai de nouveau laissé en suspens. Il y a encore des petites choses à débloquer.
Ouais. Ah, mais ça me parle de fou parce que quand mon grand-père est mort, j'avais 15 ans. Et mon grand-père voulait absolument aussi écrire une histoire de la famille. Et je crois ses grands-parents ou ses parents. Et il m'en parlait tout le temps, jusqu'à sa mort. En fait, il n'arrêtait pas de m'en parler. Et comme j'étais l'écrivaine de la famille, même si à 15 ans, il n'y avait pas tout le monde qui savait, tout le monde m'a dit « Oh, mais du coup, c'est toi qui vas l'écrire cette histoire ?» Enfin, du coup, c'est retombé sur mes épaules et je m'étais dit « du coup, ouais, ça, c'est mon rôle, tu vois. Mon grand-père, il aurait voulu que je le fasse. » Et ça m'a stressée de ouf. Ça m'a mis une pression. Ouais. Je me suis dit... Alors que, tu vois, pour le coup, c'était pas moi qui voulais l'écrire, tu vois. Je sais pas si je l'aurais fait, tu vois. Enfin, du coup, je l'ai pas fait encore. je sais pas si je le ferai, mais sur le moment, je me suis dit, ben, je lui dois ça, tu vois.
Ouais.
Et j'ai ressenti une grosse pression jusqu'à ce que, après, toute seule, je me dise, ben, en vrai, il aurait pas voulu que tu ressentes ça, il aurait voulu que tu le fasses si tu as envie de le faire. Mais je comprends, ouais, ce côté où tu te dis, ben, tu as toute la famille derrière qui attend, qui sait que tu vas le faire, qui. Ouais, c'est stressant, quoi. Mais si toi, tu sens que tu as besoin de temps après, peu importe.
Oui, oui, bah complètement. Ouais.
Si jamais je le fais jamais, ben, je le fais jamais, je pense pas qu'il m'en voudra. Donc l'écart, ça t'a un peu aidé, mais pas tout ça, pas tout déglingué, quoi.
Non, ça n'a pas tout déglingué, mais c'est normal parce que je pense que cette histoire, elle a besoin de temps pour mûrir aussi. Moi aussi, j'ai besoin de temps pour mûrir.
Oui, bah oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ce qui t'a poussé aussi au coaching ? Ça, est-ce que ça fait partie de...
Alors, l'ICAR, la formation, enfin, j'ai découvert du coup le métier de coach par ce biais-là. Avec Johanna.
Mmh.
Donc, on en avait discuté toutes les deux, tu vois, parce que dans la formation, à ce moment-là, il y avait 30 minutes de coaching avec Johanna. Et c'est de ça qu'on avait discuté, en fait. Je lui avais dit, ça me plairait trop d'être coach et tout ça. Et donc, elle m'avait expliqué, elle, son parcours. Et voilà, ça m'a motivée. Mais c'est pas ça qui m'a décidé à être coach. C'était avant, parce qu'on a fait la formation. On était en combien ? On était en 2021 ?
C'était mai-juin 2021, je crois.
Ouais, tu vois, et ça faisait un an déjà que j'avais l'idée d'être coach.
Ok. Ouais. Parce que comme... normal, vu qu'on s'est rencontrés à la formation, mais j'avais l'impression que c'était vraiment... Ça t'avait éclairé d'un coup, la formation.
Ouais, alors attends, parce que du coup, je modifie peut-être la réalité. En fait, ça faisait un an que je cherchais, t'as raison, c'est ça. Là, j'avais trouvé ce que je voulais. Et puis, j'ai vu aussi, enfin, j'avais eu des contacts avec Ingrid Lemaire aussi à ce moment-là, qui est aussi coach littéraire. Et en fait, j'ai découvert ce métier à ce moment-là, tu as raison. Et c'est là que j'ai compris ce que je voulais faire. C'est plutôt que ça faisait un an que je cherchais ce que je voulais faire pour pouvoir parler d'écriture toute la journée, en fait. Parce que c'est ça mon objectif, ma vision de vie.
Oui. Oui, j'ai parcouru un peu ton site web et j'ai vu que tu aimais écrire, faire écrire et parler écriture et que tout se rejoignait en fait.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Ouais.
Ok. Parce que j'ai vu qu'en fait, en sortant de la formation, tu t'étais inscrite dans une école pour te reconvertir direct et tout. Je me suis dit, waouh, c'est impressionnant, genre elle fonce, tu vois. J'étais admirative.
Donc, oui, parce que j'avais enfin trouvé un truc cohérent qui me permettait de faire ça, en fait. Ouais, vraiment, c'était comment ça me permet... En fait, mon idée du coaching, c'est que ça va me permettre de... Je dis ça va parce que je suis encore prof par ailleurs, mais l'idée, c'est à un moment d'arrêter. Même si, je peux encore changer d'avis. Hein. Et qu'est-ce que je voulais raconter là, du coup qu'en fait, c'était cohérent parce que ça rejoint cette envie de connaître mieux la nature humaine et d'accompagner les gens, ce que j'ai fait en fait toute ma vie finalement. Et en même temps, d'accompagner des adultes et en même temps d'être uniquement centrée autour de l'écriture qui pour moi est un moteur d'épanouissement énorme.
Ok, et donc du coup, toi qui aimes être prof, tu penses que tu aimerais plus être coach parce que le but, ce serait de peut-être arrêter définitivement d'être prof.
En fait, ce que je me suis vraiment dit, c'est deux choses. Déjà, quand j'ai eu l'idée d'être coach, je me suis dit, si t'es coach, t'es libre par rapport au métier de prof. Parce que par rapport au métier de prof, là, si je veux passer une semaine en vacances, enfin, pas hors... en dehors des vacances scolaires, en retraite d'écriture, dans un lieu paradisiaque, je ne peux pas. Si je veux muter dans un endroit toujours paradisiaque, avec une belle maison d'écrivain, je ne peux pas le faire facilement, parce que ça dépend du nombre de points que j'ai, en fait. Et là, je me suis dit, mais coach, en fait, là, je deviens indépendante. Et donc, il y avait cette idée sûrement un peu idéalisée, mais pourquoi pas, hein, de pouvoir faire un métier de n'importe où. Donc, faire un métier de n'importe où et n'importe quand. Donc là, il m'arrive de coacher des gens quand je suis en vacances. Et puis, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller me promener, il fait super beau. Donc, je dis à la personne, est-ce que je peux te coacher par téléphone Puis comme ça, on se balade en même temps ou pas. Enfin, en tout cas, moi, je me balade et puis je coach en même temps et j'adore ça. Et ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est... Ouais, je sais plus quelle était la deuxième chose, mais je crois que la deuxième chose, c'était je voulais m'adresser à des adultes aussi.
Oui.
Je voulais m'adresser à des adultes pour, voilà, qu'il y ait une... En coaching, il y a une histoire de co-responsabilité, c'est-à-dire que moi, je suis responsable du questionnement et la personne qui est coachée est responsable de... est experte d'elle-même et responsable de ses... des petits pas qu'elle va effectuer. C'est pas moi qui lui dis tu vas faire ceci, tu vas faire cela, contrairement au boulot de prof où tu donnes en fait des injonctions, même si ça se modifie, hein. Enfin, on fait pas toujours ça, mais bon voilà, essentiellement ça. Donc ça, je trouvais ça génial, ça décharge de responsabilité aussi. Et puis dans le boulot de prof, en fait, c'est très il y a une charge mentale assez forte puisque forcément il y a des cours à préparer. Je pense parfois quand j'ai des difficultés avec certains élèves ou que des élèves ont des difficultés, je pense à eux, etc. Et là, les coachés, ça va être pareil, hein. Il y en a qui ont des difficultés et tout ça, mais n'empêche qu'on parlera que d'écriture. C'est ça que je veux.
Ouais, je comprends.
Ouais.
Ouais, bah oui, parce que du coup, t'es prof au collège, c'est ça ?
Oui.
Ok. Mm. Donc, la formation, il me semble que tu l'avais commencé genre en février l'année dernière, non, c'est ça ?
Oui, c'est ça. La et formation de coach, ouais.
C'est quoi, du coup, que tu as fait comme formation ?
Alors, c'est une formation par un institut qui s'appelle Coach Academy. Et il y a plein d'instituts différents. Donc, il y a plein de formations de coach différentes. De toute façon, tout le monde est coach. Hein. Moi, je suis coach comme tout le monde. Mais là, c'est un vrai. En fait, j'ai découvert que c'était un vrai métier et que c'est une vraie technique, en fait. Professionnel. Et ça, moi, ça m'intéressait parce que l'une de mes valeurs, c'est le professionnalisme. Et je voulais pas me présenter en tant que coach si j'étais pas coach. Et c'est un mot un peu fourre-tout, un mot un peu valise. Mais moi, je sais. Les autres savent pas forcément, mais moi, je sais maintenant que je suis coach. Et donc, et j'ai choisi cette formation parce qu'il y avait du présentiel et que c'était important pour moi. Et il y avait des entraînements. C'était pas que des fiches techniques et voilà, des outils qu'on t'envoie. Donc, et là, tu vois, j'aurai ma certification en juillet. Il faut que je rédige un mémoire maintenant. Donc, okay. Donc voilà. Puis, il y aura un oral aussi de passage. Et c'était quoi ta question ?
Tu as répondu à ma question. Mais d'accord. Je me demandais, du coup, c'était à distance ou... Non, tu m'as... Non, t'as dit...
Ah bah, en partie, en fait. Oui, en okay. partie. C'est-à-dire que on avait des cours... une à deux fois par semaine le soir, donc par visio, enfin voilà, ou par téléphone. Et j'ai eu trois séminaires de trois jours sur Paris. Donc trois jours, c'est trois jours de 9h à 19h. Voilà, oui, trois jours entiers, intenses, ouais. Où là, on rencontrait les autres personnes de ma formation, on était 24. Et on nous présentait des outils et donc on devait faire les outils. Et ce qui était génial, c'est que tu fais les outils devant d'autres coachs qui viennent de faire la formation et qui sont là pour te donner des retours critiques. Donc, tu n'es pas tout seul, quoi. Tu es encadré, ouais. Tu es vachement encadré. Et au milieu de ça, on avait ce qu'on appelle des co-coaching. Donc, j'avais des co-coachs entre les séminaires.
Tu en avais parlé.
Voilà. Moi, je suis habituée au mot maintenant, mais c'est vrai que ça fait toujours marrer les gens. Et les co-coachs, donc j'en avais deux. Donc en gros, je devais recevoir 20 heures de coaching et en donner 20 sur 10 semaines. Donc j'avais 4 heures de coaching, 2 heures que je recevais, 2 heures que je donnais par semaine. Et là, sur tous les sujets, parce qu'en fait, le coaching, c'est on identifie des faits, on a une cible et des chemins. Et donc, on accompagne sur le chemin via une technique de questionnement. Et donc, j'ai accompagné sur plein de sujets différents. Une de mes co-coachs, elle avait son fils qui était hospitalisé pendant cette période-là. Donc, je l'ai accompagnée là-dedans pour qu'elle gère ses émotions, qu'elle vive la situation au mieux, etc. Elle est restée enfermée avec lui pendant 2 mois à l'hôpital. Donc, c'était intense, quoi, comme situation.
Ah ouais.
Voilà, un
Et
autre
même
de mes...
pour toi, tu dois avoir un peu de pression quand même, de... non?
Ouais, mais en fait, non, justement, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai les outils. Donc, moi, je suis un outil, en fait. J'aime bien parce que j'adore le bricolage. Donc, je sais pas, j'étais comment dire, qu'est-ce qui... Un tournevis, voilà, je suis le tournevis. Et donc, j'active des questions en fonction de ce que la personne me dit. En fait, c'est beaucoup d'écoute. Et puis, je chope des petits mots, des petites pensées limitantes, des petites choses comme ça. Et puis, je vais chercher dans les valeurs de la personne, dans ses ressources, dans ses talents, tout ce qu'elle peut utiliser pour modifier un peu sa vision, tu vois. Donc, par exemple, elle, Stéphanie, ma co-coach, elle a transformé sa tristesse de voir son fils à l'hôpital avec beaucoup de créativité. Parce que du coup, moi, je ne peux pas non plus aller contre ma nature. C'est-à-dire que quand je coach, souvent, j'essaie de faire émerger la puissance créative des gens, tu vois. Et donc, elle m'envoyait des photos. En fait, elle a essayé de rendre cette situation joyeuse pour elle et pour son fils, qui, lui, pouvait pas bouger parce qu'il était plâtré de la poitrine jusqu'en bas des pieds. Et donc, il fallait trouver des moyens pour l'occuper et rendre joyeuse la situation. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle voulait. Donc, elle a réussi à faire ça. Voilà.
Ah, c'est beau, c'est bien. Puis en plus d'avoir des sujets si divers, finalement ça nourrit après ton coaching et même si toi tu te consacres à l'écriture, ben, ça servira toujours quoi. Tu peux aller
Oui,
partout.
puis tu vois, même si je coach là, je coach six écrivains par exemple, mais on ne parle pas que d'écriture en fait, parce qu'on va parler du quotidien, puisqu'on parle d'organisation. Donc forcément, on va parler de ta place dans ton couple par exemple, tu vois, tout
Ouais, c'est vrai.
bêtement.
Forcément, forcément, l'écriture est liée à tout au final.
Ben oui.
Du coup, par rapport à tes textes publiés,
Oui.
il me semble que quand on a fait la formation, tu avais déjà un texte publié.
Oui,
C'était L'ombre zone, c'est ça?
exactement. Dont je récupère les droits aujourd'hui même.
Ah
Tu vois, c'est
ouais?
marrant. Ouais, je suis en train de
Ah
regarder la date. Oui.
ok.
J'ai. Ouais.
Du coup, tu peux nous
C'était pas
parler
ta
de.
question.
Non, mais du coup, ça rentre dans ma question, parce que ça m'intéresse. Enfin, tu sais, moi, je viens de
Ouais,
recevoir
ouais.
un droit pour passeur de rêve, donc ça m'intéresse, ouais. Déjà, comment t'en es arrivé à le publier? C'est chez Dors, c'est ça?
C'est ça, c'est chez Doors. À l'époque, ça s'appelait Rocambole. Et bien, en fait, c'est le fruit du hasard. C'est une chouette histoire. J'ai signé le contrat d'édition, du coup, il y a 3 ans pile, donc le 14 avril 2020. Et donc, j'ai dû l'envoyer aux alentours du 20 mars 2020. C'est une date qui ne parle à personne. Donc, j'ai été une des privilégiées à signer un contrat d'édition durant le confinement, quoi. C'est assez énorme. Et ce qui s'est passé, c'est que je publiais L'Ombre Zone, qui était à l'époque pas du tout celui que j'ai publié depuis, qui se passait 17 ans plus tard. Et je le mettais en ligne sur Plume d'Argent, c'est un forum d'écriture. Et voilà, où on se lit mutuellement, on se commente mutuellement et tout ça. Et donc, il y avait une personne qui me commentait. Et un jour par hasard, donc on se commentait mutuellement nos textes, et un jour par hasard sur Twitter, je la trouve, et donc je me mets à la suivre, et là elle me dit: Ah, oh, Madame Lévesque, c'est rigolo de se retrouver là. Et moi je trouve ça très bizarre parce qu'en fait j'avais un pseudo, c'était Elga sur Plume d'Argent, et je me dis pourquoi elle me dit Madame Lévesque. Du coup, tu te dis tout de suite, c'est peut-être un élève, c'est peut-être. Et en fait, il s'avère que c'était une ancienne collègue. On avait bossé ensemble dans un des établissements où j'étais passée, et qu'elle habite à 500 mètres de chez moi. Et donc, on se rencontre du coup en vrai. Donc là, déjà, il y a un squeeze qui se fait dans le cerveau. Tu te dis, cette personne, je l'associe à son texte, et en même temps, je la connais par ailleurs. Enfin, très, très marrant. Et elle me dit, L'Ombre Zone, c'est super. Je pense que ça pourrait faire une série littéraire. Et justement, je viens d'être embauchée chez Rocambole. Je suis éditrice là-bas. Et donc, voilà, peut-être que tu pourrais proposer ton texte au directeur éditorial, qui est Julien Simon. Et puis, je me dis, waouh, ouais, trop bien et tout. Et
Oui.
Voilà, donc du coup, là où j'ai eu un passe-droit quelque part, c'est que je ne suis pas passée par le comité de lecture. Je suis allée directement, mon texte a été envoyé directement à Julien Simon. Alors, on n'envoyait pas un texte à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer le premier épisode et ensuite un synopsis des suivants. Et Julien Simon me répond, ben merci, mais ça va pas, ce que tu as envoyé, c'est un roman. Alors déjà, j'étais trop contente parce que c'était un roman, quoi. C'était mon premier. Et donc, j'ai envoyé une autre proposition. C'était toujours non. Et puis, en envoyant une autre proposition, en fait, j'avais dans mon roman mis un des chapitres. Enfin, un de mes chapitres se passait 17 ans plus tôt. Donc, parlait de l'histoire d'Enaël. Et donc, j'avais mis ça en premier épisode. J'avais changé, en fait. J'avais refait toute la chronologie du roman et je l'avais mis en premier épisode. Et là, je reçois donc une réponse négative, mais ambiguë, en disant bah, ça va pas, c'est toujours pas une série littéraire. Par contre, l'histoire d'Enaël, là, elle est super intéressante. Et puis, du coup, je lui dis, est-ce que je te propose quelque chose sur Enaël? Il dit, bah, tu peux tenter. J'ai tenté. 4 heures après l'envoi, donc j'ai réécrit un premier épisode. J'ai repensé toute l'histoire, j'ai réécrit un synopsis et tout ça. J'envoie que ça, j'ai pas écrit la série. Hein. J'envoie que le premier épisode et les 12 synopsis des chapitres suivants, enfin des épisodes suivants. Et 4 heures après, je reçois un « c'est oui ».
Wow.
Donc, énorme.
Ouais.
Donc, trop contente. Et là, bah, trop de pression, parce que du coup, j'ai signé un contrat pour un texte que je n'ai pas écrit. Donc là, je me dis, mais est-ce que t'es légitime? Tout ça, tout ça. Comment il a pu juger de la qualité de ton texte? Enfin, voilà. Bon, en fait, il juge la qualité de la structure et il a jugé de la qualité de mon style par le premier épisode. En fait, c'est comme ça qu'il a. Qui juge finalement, donc c'était très bien.
Mais ça dévoile beaucoup, rien que le début d'un roman. Enfin, les éditeurs choisissent rapidement sur le début, ils voient le style directement.
Exactement. Donc, je l'ai écrit pendant le confinement, donc j'ai beaucoup appris grâce à ce texte. Je pense que j'en ferai une newsletter d'ailleurs, c'était prévu. Mais si je dis tout là, ça ne sert plus à rien.
c'est vrai.
Mais j'ai appris que j'étais déjà autrice en fait avant d'être publiée. Tu vois, et ça c'est je trouve que et c'est ça que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de que les gens qui sont coachés avec moi ou que je croise etc sachent qu'ils sont déjà auteurs ou autrices en fait. Donc voilà, j'ai appris ça, j'ai appris que j'étais légitime, j'ai appris que je pouvais écrire un texte pendant la sieste, que je pouvais être hyper efficace sur une heure parce que j'avais qu'une heure pendant le confinement pour écrire. Enfin, tu vois, j'ai appris plein de trucs. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai publié L'Ombre aux Zones.
Ok. Donc t'as mis combien de temps après pour écrire tous les épisodes?
Eh bien, écoute, j'écrivais un demi-épisode par sieste de ma fille. Donc, au final, il y a... Alors, bon, ça va... Je dis, il y a 12 épisodes, donc ça, on aurait l'impression que ça fait 24 jours. Bon, en réalité, évidemment, j'ai mis un petit peu plus de temps que ça. Et parce que dedans, il faut inclure les doutes et tout ça. Et j'ai envoyé, en comptant la bêta-lecture... Donc, tu vois, j'ai commencé à l'écrire en avril. Et je l'ai envoyé en août. Ouais. Voilà, après, j'ai fait une espèce de dépression postpartum. Parce que voilà. Et ça a été publié, je ne sais plus trop, ça a été publié en février, je crois, de l'année d'après. Parce que c'est une publication hyper rapide, comme c'est du numérique.
Oui. Bah justement, du coup, le confinement, finalement, ça a changé rien, entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas de papier, au final.
Ouais, c'est pour ça.
Ouais.
C'est pour c'est ça cool. qu'ils ont continué.
Et donc, tu disais, ça a eu son petit succès.
à ma mesure, hein, c'est-à-dire premier texte publié. Et en fait, ce qu'on reçoit... Alors là, je n'ai pas regardé les chiffres. Dommage, j'aurais pu regarder les chiffres. Mais en gros...
J'aurais pu te prévenir, mais...
ouais, non, mais je m'étais dit, tiens, ça peut être intéressant pour les gens de savoir. Mais... Parce qu'en fait, on reçoit régulièrement... je sais plus comment on appelle ça, enfin relevé de des droits, ça doit s'appeler comme ça.
C'est la reddition des comptes, non, c'est pas ça?
Eh ben ouais, peut-être. Je sais plus.
Je sais pas si mais c'est ça le terme.
Mais si, bon, ouais. Mais bon. Pff. Après j'ai, enfin oui, quand je dis j'ai eu du succès. Pas eu d'argent, beaucoup, mais en tout cas, non, j'ai eu un succès de lecture, parce qu'après, pour le reste, c'était pas ça qui m'importait. Et, et on voit, en fait, le nombre de personnes qui lisent les épisodes, et donc on voit aussi le taux de rétention, si tu veux, sur la série, puisque comme toute la série est disponible, et puis que c'est un abonnement style Netflix, en fait, les gens... Donc ça, c'est intéressant, parce que quand tu vends un livre papier, bah, tu sais pas s'il est lu, en fait. Moi, j'ai plein de livres que j'ai achetés que j'ai pas lus encore.
Non, mais c'est vrai.
Voilà, et donc à peu près, du coup, je ne sais plus combien il y a, je te dirais une bêtise, mais y a, sans, en étant sûre de moi, il y a au moins 300 personnes qui l'ont lu en intégralité. Là, je suis sûre de moi pour te dire ça. Je pense que c'est plus même, mais je ne me rappelle plus.
Ouais, donc, c'est bien, ouais.
Voilà. Donc je suis, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
Ouais, non, c'est trop bien. Ok, et en plus c'était le début, non, de d'Ors, enfin c'était recommandé.
Bah ouais, ça faisait un an qu'ils existaient, ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Julien Simon, ouais, pardon.
Vas-y.
Non j'allais juste te dire que Julien Simon, en plus, il l'a mis en valeur parce qu'il aimait beaucoup mon texte, et il l'a mis en valeur en le mettant en accès gratuit pendant un mois. Donc, comme ça, les gens, en fait, c'était la série gratuite, donc les gens l'ont lu. Et là où c'était quand même fort comme geste, c'est que c'était pas... Il m'a quand même payé pour ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que même si c'était gratuit, parce que normalement, quand tu vends tes livres papier, gratuit, bah, c'est gratuit, quoi. Même pour l'auteur. Ouais. Alors que là, j'ai continué à être... ça a continué à faire partie des comptes de lecture.
Ah ouais, non, c'est super. Oui, c'était ce qui. En fait, ils pensaient que ça donnerait envie de s'abonner, quoi, finalement, avec ton texte.
Ben ouais, c'est ça.
C'est trop bien.
Je suis sûre qu'il y en a plein qui sont abonnés grâce à moi.
Mais oui.
Je plaisante.
Tu as participé. Non, c'est trop bien.
Ouais.
Non, je disais juste que je me souviens que j'avais vu une offre, justement, au moment où Rocambole est né. Ils avaient fait une méga offre de lancement, un abonnement d'un an à 3 euros, je crois, un truc comme ça. Et du coup, je m'étais inscrite à ce moment-là. Et après, j'avais oublié que ça existait. Ouais. J'ai lu peut-être quelques fois, mais en fait, je n'avais pas l'habitude encore de regarder sur mon téléphone pour lire. Et donc, du coup, c'est vrai que pendant un an, j'ai un peu oublié que j'avais cet accès-là. C'était le début aussi, donc il n'y avait pas énormément de textes. Et quand je suis arrivée à la fin de l'abonnement, je me suis dit « Ah, mais merde, c'est vrai, j'avais ça !» Puis je me suis dit « Bon, je ne vais pas en reprendre un parce que je vais encore oublier.
» Bah ouais, ouais.
Mais je trouve que c'est une super initiative. Enfin, il a surfé sur la vague Netflix et tout. Et c'est vrai que la lecture en numérique sur le téléphone, c'est super pratique comme, pour des gens qui lisent comme moi, ou sur Wattpad. Ou voilà. En fait, c'est trop bien de faire ça sous forme
de livre. Bah oui, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, je suis tellement aussi habituée au livre papier. Puis je prends pas le métro parce que à Chartres il y a pas de métro, donc en vélo c'est pas très pratique.
C'est vrai. En vélo, tu pourrais faire l'audio à la limite, mais c'est un peu dangereux.
Ouais, mais oui, parce que maintenant ils ont les versions audio des textes aussi, donc ça c'est cool.
Ah ok, j'avais pas ça. Trop bien.
Ouais, moi j'ai une version audio du coup d'un autre de mes textes. Il y a une version audio. J'ai pas vu le dernier s'il y en avait, mais La Fabrique d'une fille en version audio, ouais. Donc ça c'est cool. Ouais.
Ah, et t'as écouté pour voir?
Eh ben même pas, tu sais. Enfin, j'ai dû voir que ça y était. J'ai dû écouter le début, puis comme toi, j'ai oublié. Tu vois, comme quoi.
Moi, j'aurais été curieuse de voir la voix. Ben ouais, la voix de la narratrice ou du narrateur.
C'était agréable, en tout cas. Enfin, je me rappelle que c'était, tu vois, j'avais trouvé ça agréable. C'était une femme, évidemment. Parce que...
Oui. Non, mais parce que moi, maintenant, c'est vrai que je lis beaucoup en audio, parce que je lis au travail. Ça fait... C'est le temps plus vite et vraiment en révolution. Mais du coup, c'est intéressant. Si je savais pas que maintenant il y avait de l'audio sur Dors. Ça m'intéresse. Jeter un œil à nouveau.
Je ne touche rien sur pour leur faire la pub, tu vois.
Pas de sponsor.
Non.
Et du coup, par rapport à ces droits que tu récupères, c'est quoi? C'est ton contrat qui prend fin?
En fait, j'avais signé pour 2 ans. Un contrat de 2 ans et renouvelable, enfin voilà. Et j'avais gardé mes droits papiers à ce moment-là. Ils faisaient un contrat où je n'ai cédé que, entre guillemets, que les droits numériques et les droits audiovisuels. Et là, ils ont été rachetés par une entreprise qui veut uniformiser les contrats. Et donc, ils ont demandé à ce qu'on signe les nouveaux contrats. Et en fait, en lisant les nouveaux contrats, c'était pas du tout... Enfin, moi, pour moi, c'était pas avantageux. Donc, j'ai demandé à récupérer mes droits, en fait.
Okay. Voilà. Donc, ces nouveaux contrats incluent la version papier ?
La cession des droits papier. Ça ne veut pas dire que ça inclut une version papier.
Ah ouais. Oui, justement. Mais ce n'est pas logique, du coup, si tu cèdes tes droits papier alors qu'il n'y a pas de version papier.
Ben, c'est-à-dire que je pense que ça fait partie des projets, tu vois. Là, il va y en avoir un, d'après ce qu'on m'a dit, il va y avoir une des séries qui va être publiée en roman, tu vois. Puis ils ont des liens aussi avec... Enfin, ils essaient, tu vois, d'avoir des partenariats pas mal. Et donc, là, il y a une série qui va être adaptée en série audio, télé, quoi.
Donc, ah ouais?
Voilà. Il y en a d'autres qui ont été mises en valeur dans un des journaux parisiens, je ne sais plus lequel, mais c'est paru l'été, en fait, il y avait les épisodes qui paraissaient en version papier, mais journal. Tu vois? Donc, ils ont pas mal de projets de partenariats comme ça. Mais moi, je n'avais pas envie d'attendre. D'attendre ces projets-là, en fait. Voilà, je voulais, et je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais pareil, dans le contrat, en fait, il fallait forcément, au niveau de l'univers, qui est mon univers, hein, qui m'appartient, celui de l'ombre zone, l'univers de la dystopie, je voulais justement garder tous les droits dessus. Et en fait, si j'écrivais, comme j'ai envie d'écrire une suite, un tome compagnon et tout, j'ai envie de faire ça, et puis... Et en fait, il fallait qu'ils aient forcément la primeur de... Enfin, c'est pas qu'ils avaient la primeur, mais il fallait forcément que je leur propose et que ce soit refusé deux fois avant de pouvoir en faire ce que je voulais. Et ça, j'avais pas envie, j'avais envie de rester libre. C'est... Peut-être que je le regretterais, hein, mais tu vois, j'avais envie en fait, d'auto-éditer, je sais pas si je le ferais, mais j'avais envie d'auto-éditer en fait, des volumes avec mes différentes séries de l'ombre zone, quoi.
Ok, ouais, je comprends, tout à fait.
Ouais. Bah oui.
En tout cas, ils se développent bien, ouais. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça.
Mais ils ont plein d'idées, en tout cas, ouais.
Ouais, ouais, mmh. C'est bien. Non, mais de toute façon, moi qui ai douté pendant 8 mois avant de récupérer mes droits, je pense que c'est un moment
ouais.
Tu sais, tu vois, ce que vraiment tu veux. Et certes, tu as tes doutes et tu te dis, bon, j'espère que je ne vais pas le regretter, mais enfin, je pense que tu sais quand même, au fond, quel est le plus important pour toi, quoi.
Et toi, tu qu'est-ce qui t'a poussé à récupérer tes droits ?
Plusieurs raisons. Première chose, ça se passait bien au niveau relationnel avec la maison d'édition, mais au niveau professionnel, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ça, c'était pas ce que j'attendais. Et j'avais un peu l'impression d'être toute seule à me battre pour mon texte. Donc, première raison, c'était surtout ça. Deuxième raison, en fait, la première raison est à 80%, la deuxième est à 20%, parce que si j'avais eu que la deuxième, je n'aurais pas récupéré mes droits. C'est que Passeur de rêve est trop vieux maintenant. Enfin, j'étais trop jeune, en fait, et j'aimerais retravailler toute la saga, j'aimerais refaire un tour dessus et faire. J'en parlais sur Instagram justement hier, faire un pont entre celle que j'étais à 16 ans au moment du premier jet et celle que je suis maintenant à 23 avec l'expérience que j'ai prise et tout ça. Donc j'ai besoin en fait de le retravailler un peu, de le mettre au goût du jour et voilà, me rendre plus fière de cette saga.
Mais tu vois, je trouve ça hyper intéressant d'échanger sur ces deux expériences parce qu'en fait, bon, en fait, finalement, on comprend qu'on ne veut pas être publié à n'importe quel prix, quoi.
Exactement. Et ça, je pense que c'est ce qui est en train de changer en ce moment. Aussi, on a d'autres alternatives aussi, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et que maintenant, je disais dans l'épisode de podcast où j'expliquais pourquoi je reprenais mes droits, c'est que maintenant, c'est moi qui choisis la maison d'édition. Et ce n'est pas elle qui me choisit, tu vois. Je vois plus comme ça, en mode... si je veux être publiée, j'ai du choix. Et c'est moi qui choisis qu'est-ce que je veux et sous quelles conditions. Alors que même il y a 2 ans, j'ai signé mon contrat au moment de la formation de l'ICAR. Même il y a 2 ans, ben, j'étais en mode, ben, la maison d'édition me fait une faveur, tu vois, genre c'est vraiment, on n'était pas sur un pied d'égalité. Et ça a beaucoup évolué dans ma tête, ben, rien que par la formation. Hein. Déjà à la fin de la formation, j'avais un état d'esprit un peu différent. Et de plus en plus, en fait, ça a évolué et je me sentais en disharmonie juste avec ma maison d'édition. Alors, enfin voilà, au niveau relationnel ou quoi, ça se passait bien, mais c'était vraiment juste ce que moi j'avais comme vision de ce que je voulais faire, de l'image que je voulais projeter et de la posture professionnelle que j'adopte maintenant. Et c'est ça qui a évolué. Et de plus en plus, en fait, nos chemins, ils se sont éloignés. Et je me disais, mais je ne peux plus être associée à eux parce que on n'est pas alignés, quoi. Donc, mais tu vois, les premiers mois, j'ai énormément douté. Et je me disais, mais je vais regretter. Qu'est-ce que je fais si je regrette? C'est-à-dire que j'ai fait tout ça pour rien. C'était surtout ça, en fait. C'était le côté, j'ai bossé comme une ouf pendant 1 an pour ce livre et tout. Et puis là, je vais tout déglinguer, quoi. Et en fait, finalement, à force de douter et que le temps passe, de plus en plus, ça m'a apparu comme la seule solution. Et je me disais, bah, non, finalement, c'est ce qu'il faut que tu fasses, quoi.
Puis en plus, là, dans ce que tu dis, ce qui est énorme, c'est que tu y as gagné, en fait, tu y as gagné cette assurance de posture professionnelle, quoi.
Ouais. Ouais, c'est surtout ça, en fait. Finalement, c'est ça la première raison. Et ça fait 2 semaines et demie que j'ai signé la rupture de contrat. Je suis pas triste, tu vois, je regrette pas. Enfin, je suis un peu triste dans le sens où, d'un côté, c'était la première fois qu'une maison d'édition me disait oui quand j'ai quand elle m'a appelé et qu'elle m'a dit qu'elle voulait publier. C'était quand même assez ouf. Et j'ai eu énormément d'espoir et d'attente. Donc, d'un côté, j'ai un peu cette tristesse de mes espoirs déchus et de comme si je faisais le deuil de quelque chose, en fait. C'est une sorte
Bien
de deuil,
sûr,
au final. Donc, j'ai eu quand même ça, cette tristesse-là et cette impression, des fois, que je peux avoir d'être revenue au point de départ ou d'avoir régressé, tu vois. Même si je sais que c'est pas le cas du tout. Mais c'est surtout, ouais, ce deuil, en fait.
Ben ouais, et en fait, c'est surtout parce que tu as progressé que tu es capable aujourd'hui de dire je m'en vais en fait.
Ouais.
Parce
Mais
que
tu vois, justement,
sinon.
j'en suis fière finalement d'avoir eu cette force de déterminer ce qui était bien pour enfin mieux pour moi, ce que je voulais vraiment et de le faire. Finalement, c'est ça qui en ressort le plus, c'est que je suis quand même fière d'avoir eu ce courage, même si j'étais enfin tout en ayant conscience de ce que je perds, entre guillemets.
Ben oui. Ça a toujours un coût, il y a
Oui,
toujours un
c'est
coût à avancer, c'est clair.
ça. Et ouais, c'est. Et toi, du coup, t'as pris la décision assez rapidement quand t'as entendu parler de ces contrats ou ça, pareil, ça t'a fait douter et.
Bah, j'ai douté. Alors, tu sais, j'ai douté. Alors, moi, j'ai douté déjà avant de signer. Avant de signer, j'ai douté parce que voilà, ça faisait un moment que je faisais partie de communautés d'écrivains, d'écrivaines, publiées ou non, et que j'écoutais attentivement, forcément, avec beaucoup d'admiration, les écrivaines, écrivains publiés. Et j'entendais un discours que j'ai envie de répéter, c'est voilà, une maison d'édition, elle est là, c'est un partenariat, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et elle ne vous fait pas une faveur, et donc il n'y a aucune raison d'être mal payé, de ne pas être reconnu, de ne pas, c'est son boulot, le marketing, donc de faire le marketing à sa place, il n'y a aucune raison et tout ça. Et du coup, j'ai vraiment, au moment où j'ai vu que je pouvais finalement rentrer dans la maison d'édition Doors, j'ai bien regardé le contrat, je l'ai bien lu et je me suis posé des questions. Je me dis, est-ce que vraiment tu veux ça? Est-ce qu'ils mettent bien en valeur les auteurs, etc. Et voilà. Et j'ai dit oui parce que pour moi, il y avait des valeurs alignées avec les miennes.
Mais tu avais déjà conscience de ça, de tout l'aspect marketing, de l'aspect financement, enfin je veux dire rémunération et tout, ce qui n'était pas mon cas moi perso quand j'ai signé, mais c'est bien du coup.
Mais toi, c'est oui, bah oui, en fait, mais c'est parce que pour écrire, j'ai regardé énormément de vidéos. Je voulais plonger en fait dans cet univers, tu vois, pour en faire partie, je voulais comprendre aussi comment ça marchait. Et oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut le répéter, le répéter, le répéter, parce qu'effectivement, il y aura toujours des personnes qui ne sauront pas qu'il ne faut pas aller dans les maisons d'édition à compte d'auteur, que voilà.
Ça me rend triste à chaque fois parce que j'en connais quelques-unes Je sais pas ce que je dois faire dans ce cas-là. Je sais pas si je dois leur dire. Je sais pas si je dois. Tu vois? Je trouve ça toujours. Et pourtant, je suis triste parce que je me dis, ben, moi, j'aimerais qu'on me le dise peut-être. Ou, enfin, voilà. C'est. Je
Des
trouve
gens
c'est
qui l'ont
douloureux.
fait et c'est trop tard, c'est ça que tu veux dire?
Ouais,
Ou des
c'est
gens
ça.
qui... Ouais. Bah, ils vont s'en rendre compte par l'expérience peut-être. Et puis peut-être que pour eux, ce sera très bien.
Oui, c'est ça. Mais je me dis aussi, au final, peut-être que par rapport à ce que eux, ils attendent, c'est ça aussi la différence. C'est que par exemple, moi, ça n'a pas fonctionné par rapport à mes attentes vis-à-vis d'une maison d'édition. Mais mon collègue qui est dans cette maison d'édition et qui est un très bon ami, ça se passe très bien parce que par rapport à ses attentes à lui, on en a parlé même pendant les salons où on était ensemble. Je lui en avais déjà parlé de ce qui ne me convenait pas. Et lui, ça lui convenait, tu vois. Donc, il y a peut-être des gens, au final, ils s'en fichent, entre guillemets, des comptes d'auteur parce que ça. Enfin, ils n'attendent pas forcément ce que nous, on attend d'une maison d'édition. Donc, oui, c'est pour ça que
Bah,
c'est délicat, quoi.
ce qui est important, c'est d'être au courant, quoi. C'est de choisir en
Oui.
toute conscience, en fait. Pour moi, c'est ça. Après, le choix, il appartient à chacun. Tu vois, moi, la maison d'édition à laquelle j'appartiens, y a pas de salon, par exemple. J'ai fait aucun
Oui.
salon. Et tu vois, à un moment donné, je me suis dit, ah bah oui, tiens, t'as fait aucun salon. Alors aujourd'hui, ça m'attire, j'ai envie d'en faire, mais à l'époque, je me disais, bah non, mais de toute façon, c'est pas grave, j'ai pas le temps. Donc ça m'arrangeait, tu vois. voilà. Et alors oui, tu me posais la question de savoir, est-ce que j'ai douté pour reprendre mes droits? Oui, j'ai appelé une copine, en fait, aussi, qui est dans cette maison d'édition-là, pour savoir un peu ce qu'elle en pensait. Parce que des fois, j'arrive pas à penser par moi-même. J'ai besoin de l'avis d'autres personnes. Puis ça permet d'avancer, d'être sûr d'avoir bien compris les tenants et les aboutissants. Et donc voilà, et donc elle m'a confirmé que j'avais bien compris ce qu'il en était par rapport au contrat et tout. Puis en fait, même avant de l'appeler, j'étais déjà décidée quelque part. Mais voilà, voir que
Pour
d'autres...
avoir un autre avis pour
Ouais, voilà, j'avais besoin d'avoir un autre avis, parce que c'est complexe, hein, les contrats d'édition, en fait, hein. Il y a plein de trucs. Tout est écrit noir sur blanc, mais en réalité, tu comprends pas tout quand même, quoi.
Mais moi, la
Voilà.
première, dès que j'ai eu le moment où j'ai commencé à douter, en fait, en vrai, même pareil, avant de signer, je n'étais pas sûre à 100%. Mais quand j'ai commencé à douter, j'ai commencé à en parler partout à mes proches. Même alors qu'il y en a, ils ne connaissaient rien au monde de l'édition, tu vois. Mais j'étais en mode, je recueille tous les avis et je réfléchis après. Alors qu'au
Ben
fond, bah,
oui.
je savais déjà, mais voilà, j'avais besoin quand même de savoir.
Ouais, ça, comme ça, on se positionne en fait par rapport aux autres. Ok, bon là, ils pensent ça, mais moi, je suis pas tout à fait là. Ouais.
Oui, c'est ça. Mais du coup, tu as d'autres textes qui sont
Oui.
publiés et
Oui.
qu'est-ce
Alors,
que tu fais par rapport à eux?
eh ben, écoute, l'ombre, c'est deux, enfin. La Fabrique d'une fille, donc, que j'ai publiée sous le pseudo Yaël Lemoine, parce qu'à cette époque-là, en fait, je raconterai peut-être plus tard, mais je voulais pas qu'on sache que c'était moi. Maintenant, j'ai envie de le dire partout. Mais parce que je suis contente de ce
Et
texte.
l'Amazon, il était sous quel nom?
Sous mon nom, Gaëlle Lévesque. Hein. L'autre aussi, La Lettra Escarlata, c'est sous mon nom.
Ok, on en parlera après alors que c'est intéressant.
Ouais. Et bah lui, donc La Fabrique d'une fille, j'ai cédé mes droits. En fait, j'ai négocié pour garder mes droits papier. Parce que bah, je te raconterai l'histoire de ce texte après, si tu veux. Parce que c'est qui expliquera pourquoi j'ai gardé les droits papier. Donc là, pour l'instant, bah écoute, c'est en suspens, c'est-à-dire que c'est en négociation. Pour l'instant, ils m'ont pas relancé pour que je signe le contrat. De toute façon, je refuserai, en fait. Je veux garder mes droits papier. Donc, au pire, bah, je récupère aussi ça, mais non, par contre, j'ai cédé mes droits à vie.
Ah
Là, pour le
d'accord.
coup.
Ah oui.
Voilà.
OK.
Parce qu'a priori, maintenant, c'est ça la loi. Bon, écoute, hein, là, je ne sais pas, je ne me suis pas rapprochée des syndicats des auteurs et des autrices, mais
Fait
voilà.
avis quand même. C'est vraiment
Ah, bah ouais, là, ouais. Là, ça fait peur. Et puis, pour La Lettra Escarlata, là, j'ai tout cédé. Là, c'était des contrats type actuel, mais c'était un texte que j'adore. Hein. Mais de toute façon, je pense qu'il aurait. Enfin, je pense, hein, mais j'avais pas d'ambition autre pour ce texte-là. C'est-à-dire que j'avais pas envie de le publier par ailleurs, ailleurs. En fait, c'était vraiment pour eux que je l'ai écrit parce que ça rentrait pile dans leur ligne éditoriale et que c'était un texte qui me tenait à cœur. Et voilà. Donc j'ai encore la lettre à Escarlata. Je pense que l'Ombrezone, là, je ne suis pas allée voir, mais j'irai voir s'il est encore. Mais je pense que c'était aujourd'hui la fin. Donc voilà, donc j'ai encore la lettre à Escarlata et la fabrique d'une fille. Ouais.
Ok. Bah, du coup, si tu veux nous raconter l'histoire de...
Oui, la fabrique.
La fabrique.
Alors, la fabrique d'une fille...
À tes parents, non ?
Oui, c'est ça. Je ne voulais pas que mes parents sachent que j'avais écrit ce texte. En fait, je voulais que personne le sache au départ. C'est-à-dire que...
Tu avais dû en parler en newsletter ou je ne sais plus.
Oui, je pense, ouais. Ouais, j'ai dû en parler en newsletter. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était allé à un apéro rocambole. C'était en février 2020, du coup, avant le confinement, avec mon éditrice, Virginie. Et au retour, j'ai raconté ma vie, parce que moi, j'aime bien raconter ma vie. Et donc, j'ai raconté des trucs sur, en fait, la manière dont je m'étais construite en tant que femme, en tant que fille. Puis que je savais pas très bien, tu vois, je m'appelle Gaëlle. Dans Gaëlle, il y a Ga et il y a Elle. Et j'ai découvert ça à ma première séance de psy. Et ça a été une révélation, quoi, pour moi. Et donc, ça commence comme ça, la fabrique d'une fille. Et ben voilà, comment avec ma part masculine, je me construis aussi, je me retrouve dans ma part féminine, enfin tout ça, bon, c'est un questionnement que j'aime beaucoup avoir et voilà, que j'aime beaucoup entendre aussi chez les autres, parce que ça nous fait avancer en fait dans notre société, je trouve, de réfléchir au genre et à la place de chacun, chacune. Et donc, je racontais ma vie et elle me dit: pourquoi tu l'écrirais pas? Et moi, j'ai jamais tenu de journal intime, jamais, parce que je trouvais que ma vie était inintéressante au possible. Donc, j'ai toujours préféré la rêver, raconter autre chose de la fiction. Sauf que, ça a travaillé. Et puis, en voiture, je me souviens, je me suis dit, mais je pourrais raconter ça. Je suis arrivée à la maison, j'ai listé tout ça. Et puis, je me suis dit, je vais l'écrire, mais je vais l'écrire pour Virginie. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit sous forme de série littéraire. Donc ça, c'est pas long, hein. Ça fait 5 épisodes, je crois. Donc 5 épisodes de 10 000 signes à peu près. Okay. Et je lui raconte comment je me suis fabriquée en tant que fille. Enfin, comment on m'a fabriquée aussi. Enfin, voilà. Ouais. Donc c'est toute cette réflexion là. Et je lui ai envoyé. Et puis elle me dit, on devrait l'envoyer à Julien Simon. Et là, j'ai fait « Ah !» Et en fait, et c'est pas lui d'ailleurs, c'était quelqu'un d'autre qui s'en occupait à l'époque et qui a dit « Non, ça rentre pas dans notre ligne édito et tout, ok. » Et puis, je l'ai fait lire à des copines et à chaque fois, mes copines disaient « Oh, mais j'ai trop envie de l'écrire, moi aussi, j'ai trop envie de raconter, hein, moi, ça m'évoque telle et telle chose. » Et là, je me suis dit « Waouh, ce texte, en fait, c'est génial parce que c'est comme un relais, hein. Tu vois, ça donne envie à d'autres de raconter leur histoire. » Et à ce moment-là, avec une de mes copines écrivaines, Isabelle, j'ai beaucoup de copines écrivaines qui s'appellent Isabelle, mais c'est l'une d'entre elles. Et elle a écrit sa fabrique d'une fille aussi, à sa façon. Et on s'est dit, on va en faire un recueil de fabrique d'une fille. Et Virginie aussi, elle avait envie d'écrire la sienne et voilà. Et puis à ce moment-là, j'ai joint sur Instagram, il y a Léo Mix Auteur, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est aussi un ancien de l'ICAR, et il raconte sa non-binarité. Et là, il raconte, il raconte aussi depuis un moment sa transition de genre. Et je le suivais, je trouvais ça génial et je l'ai joint et je lui ai dit, tu voudrais pas te joindre à nous pour raconter ta fabrique. Et donc, il a écrit son journal de non-binaire qui est publié sur Wattpad. Et j'adore, quoi. Je trouve ça trop, trop bien pouvoir lire ces textes-là aussi. Et donc, j'ai toujours en tête avec mon amie Isabelle de faire un recueil, de proposer un recueil. Donc, on a joint une autre autrice qui devrait se joindre à nous, qui, elle, a des liens avec des maisons d'édition de bande dessinée. Donc, on ne sait pas trop, tu vois, c'est encore un peu flou. Mais c'est pour ça que je voulais garder mes droits papier. Parce que j'ai ce projet derrière d'éventuels recueils. Je ne sais pas s'il naîtra un jour, mais j'aimerais bien.
Mais ce serait incroyable. Moi, je serais la première à l'acheter. Ce serait trop bien.
Ouais.
C'est une trop belle histoire, vraiment. Et puis, du coup, je suis curieuse parce que j'ai envie de la lire pour voir.
Bah, tu
Pour
vois.
voir si c'est mon futur aussi, tu vois. Ah ouais, non, trop. C'est clair.
Ouais.
Ok.
Bah, c'est. Ouais, c'est. Du coup, je l'avais publié aussi sur Plume d'Argent à ce moment-là. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Alors là, il n'y est plus, hein, puisque maintenant, voilà, j'ai récupéré. Enfin, je l'ai enlevé. Mais j'ai eu pas mal de retours aussi, enfin, qui étaient du même ordre, en fait. Et c'était chouette parce qu'en plus, moi, j'adore que les gens me racontent leur vie. Et là, il y avait des choses qui. Il y avait des choses qui naissaient, en fait, de la discussion et qui sont intenses en émotion parce que ça vient toucher de l'intime. Et voilà. Et tu vois, je me dis, je suis coach littéraire, mais en fait, ce que j'aime accompagner aussi, c'est les projets où il y a aussi de l'intimité, enfin, une part de l'auteur ou de l'autrice qui est mise dans ce projet. Et c'est pas une part évidente à mettre en valeur et à mettre par écrit. Donc, je trouve que c'est tellement riche parce que ça crée tout ça crée du partage, ça crée de l'émotion, de l'envie chez d'autres de faire sortir peut-être ce qu'ils ont gardé en eux. Enfin, tu vois, je crois beaucoup au projet. Tu te souviens, on avait dans la formation, j'ai bêta lu le projet de. Son prénom m'échappe là. Parce que j'ai juste le nom de son roman, Jolilo Garance.
Oui.
Jolilo, c'est ça?
Oui.
Et qui a écrit sur le cancer du sein génétique. Et en
Ah, je
fait,
savais.
j'ai bêta lu son texte. Donc ça, alors du coup, j'ai pas suivi dernièrement, mais elle l'avait proposé en maison d'édition, etc. Et tu vois, ce genre de projet-là où il y avait une autre femme, elle voulait écrire sur toutes ses fives, son projet d'enfant et tout. Bah, tous ces projets-là, enfin, toutes ces histoires-là qui sont puissantes, ça me plaît beaucoup, quoi, de les entendre et de permettre aussi après aux auteurs, aux autrices de les faire exister. Alors là, Garance, je l'avais bêta lu, hein, donc j'étais pour rien du tout dans la naissance de son texte. Elle avait été accompagnée par l'ICAR, mais je m'étais dit, c'est tellement riche quoi comme projet, tellement fort.
Ouais, mais du coup, ouais, la fabrique d'une fille, ça me donne l'impression qu'en fait, ça te fait sortir de toi ton côté coach, du coup. C'est trop bien.
Ouais, et tu vois, là, j'ai pas de mal à dire que je suis fière de ce texte parce qu'en fait, c'est presque il existe presque en dehors de moi. C'est presque comme si j'y suis pour rien en fait. C'est juste que ça vient réveiller chez les autres quelque chose. Je sais pas comment
Ouais,
dire. C'est même pas le style, on
ouais.
s'en fout en fait. Parce que je me suis pas en train de me dire ouais, il est super bien écrit, tout. Pas du tout. C'est pas ça. C'est que juste il a un pouvoir quoi. C'est que
Ouais,
je
il y a
soupçonnais
une
pas.
universalité. Où...
Ouais,
Ouais.
c'est ça.
Je vois ce que tu veux dire. Oh, c'est trop bien. Du coup, c'est là que tu t'es dit, je prends un pseudo parce que c'est trop intime, en fait.
Oui, parce que
C'est...
bah, je parle un peu de mes parents et des fois c'est pas toujours facile parce qu'il y a des choses qui ont été qui sont non dites avec les parents. C'est pas toujours évident de dire les choses, tu vois. Maintenant, j'ai appris, même dans ma formation de coach, tu sais, j'ai été coachée moi aussi, donc j'ai avancé, j'ai fait plein de pas. Si je fais pas les pas, ça a rien de demander à d'autres de faire des pas, hein, je suis pas crédible. Et tu vois, bah, Léo, justement, dont je te parlais tout à l'heure. Il m'avait envoyé son journal de non-binaire et au tout début, il y avait une lettre écrite à ses parents parce qu'il l'a fait lire à ses parents. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc un jour, j'ai imprimé, alors ça m'a pris un an hein, quand même, j'ai imprimé La fabrique d'une fille pour mes parents. Je leur ai écrit une lettre en leur disant, voilà ce que j'ai écrit et tout ça. J'ai hésité à vous le donner à lire. En tout cas, sachez que voilà, si je vous le fais lire aujourd'hui, c'est parce que bah, je suis fière de la femme que je suis devenue grâce à vous, même si bah, peut-être il y a des choses qui vous heurteront, je ne sais pas. Et je leur ai laissé sur une table et je suis partie. Et en partant, j'ai dit à mes parents, bah, il y a une enveloppe sur la table, vous verrez ce que c'est. Ok, vous
Allez,
serez peut-être
salut.
surpris. Salut, je m'en vais. Et pour rentrer chez moi, j'ai 1h45 de route. Et puis, bah, je leur passe toujours un petit coup de fil pour leur dire que je suis bien arrivée. Et là, en fait, je les ai eu tous les deux au téléphone et ils m'ont dit on a lu. C'était génial. Bah, écoute, non, on n'a pas été surpris. On t'a complètement retrouvée. Et puis, ma mère me dit c'est vrai, on a fait ça. Alors, je ne vous dévoile pas à quoi elle fait référence, mais parce que c'est dans le texte. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais bah, écoute. Si c'était à refaire, je le referais, tu vois. Et du coup, elle n'était pas du tout dans le reproche ni quoi que ce soit. C'était juste parce que elle le faisait avec certaines intentions, que moi, je l'ai vécu autrement. Et même quand j'en ai parlé à mes sœurs, elles n'ont pas vécu le même épisode, pourtant dans lequel elles sont, de la même façon que moi. Et donc, voilà. Donc, du coup, je suis encore plus fière de ça, en fait, parce que je l'ai transmis à mes parents.
C'est beau, vraiment, je suis admirative. En plus, justement, j'avais eu ça avec mon père par rapport à Passeur de rêve, puisque je l'ai écrit, du coup, j'avais 15-16 ans. Et clairement, je me suis énormément inspirée de moi pour l'héroïne. Et c'est vrai qu'il y a eu des blessures que j'avais, que j'ai mises dans ce roman, que j'ai mises en scène. Et tu vois, c'était un fantastique, donc j'ai pu les tourner autrement et tout. Et je me suis servie d'une blessure que j'avais à ce moment-là pour faire quelque chose à ce sujet dans ce livre. Et mon père a lu le premier chapitre où il est question du père de l'héroïne, justement. Et en fait, il n'a pas pu continuer parce qu'il était, il a été blessé de penser que j'avais cette vision de lui. Et je sais toujours pas s'il le croit. Pourtant, je lui ai dit, mais je me suis servie de cette blessure que j'ai eue à un instant T, mais je l'ai exacerbée et j'en ai fait quelque chose de fictif, en fait. C'est pas toi, ce personnage. Et en fait, après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mince, c'est vrai que... Enfin, j'avais pas pensé que je pouvais blesser des gens autour de moi en écrivant. J'ai essayé du coup de lui faire comprendre. Je sais pas si maintenant, tu vois, il a capté que c'était pas lui. Je sais pas s'il a continué du coup, mais je pense pas. Et du coup, tu vois, par exemple, je me suis rattrapée entre guillemets sur La Chute des Anges, maintenant mes derniers livres. Où pour le coup, Joyce, une de mes héroïnes, elle est ultra proche de son père. C'est la personne qu'elle aime le plus au monde, tu vois. Et je me suis dit, bon, je vais me rattraper, je vais lui dire, mais tu vois. je peux faire ça. Mais ouais. C'est bien, c'est que ça m'a amené à me poser. Enfin, je me suis posé la question de oui, c'est vrai, peut-être que des fois je peux. Enfin, les gens peuvent s'identifier à des personnages qui en fait ne sont pas eux et je peux les blesser et c'est pas l'intention. Donc il faut que j'essaie de trouver le moyen de leur dire écoute, c'est de la fiction. Oui, je m'inspire de ce que je connais, c'est normal, tous les écrivains font ça. Mais c'est pas pour ça que c'est toi ou que c'est ce qui s'est passé. Et pour La Ville en Rose, qui est très inspirée des choses que j'ai vécues, là, j'ai l'intention, parce qu'il arrive à la fin de bêta lecture pour être publié, j'ai l'intention de le relire en essayant de prendre un peu de recul en me disant « Est-ce qu'il y a des personnes que je pourrais blesser, tu vois, qui pourraient se reconnaître et tout ?» Et je me dis « Bon, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Mais c'est hyper délicat aussi, là, je trouve.
Ouais. Ben, en fait, alors, ça me fait penser à une autrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, pourtant super connue, qui a écrit « Fille ». Les filles, je crois. Ah, ensuite, il faudra que je retrouve le nom, mais très archi connu. Geneviève Brisac. Et en fait, elle racontait que suite à l'écriture de ce livre, elle s'est fâchée avec ses sœurs. Voilà. Et elle lui parle plus. Hein. Donc voilà. Mais et j'allais dire, on est hyper vulnérable en fait quand on est écrivain, parce que quand t'es écrivain publié, t'es considéré comme un dieu, mais en réalité, on est hyper vulnérable parce que d'une part, on a peur. Enfin, le fait d'avoir peur de blesser quelqu'un, ça peut nous brider dans notre créativité, je pense. Et t'étais partie totalement insouciante en fait quand t'as écrit Passeur de rêve. Et c'est chouette parce que finalement, tu as métamorphosé ta blessure en quelque chose de...
C'est ça.
En de l'art.
C'est ma volonté de me guérir à travers cette histoire. Tu vois,
mais oui.
Pareil, ça commence par l'héroïne qui perd son grand-père et qui n'arrive pas à faire son deuil. J'ai perdu mon grand-père à 15 ans, je l'ai écrit, j'avais 16 ans. C'était mon expérience.
Et ben oui, oui, oui.
Qui sont vraiment ce que j'ai ressenti, tu vois. Mais c'est compliqué à expliquer et à doser par rapport... Enfin, expliquer aux gens l'équilibre entre les
Mais en
deux, quoi.
fait, enfin, moi là, je vais te donner mon point de vue, hein, qui n'est que mon point de vue, mais moi, je l'ai lâché l'affaire parce que moi, j'écrivais que des choses archi tristes. Et mes parents, ils m'ont toujours lu. Et bravo à eux, parce qu'en fait, je les ai traumatisés à chaque fois, en fait. Ils étaient traumatisés parce qu'ils se disaient, waouh. Et tu vois, moi, je suis hyper souriante dans la vie aussi. C'est pas que. Enfin, vraiment, je suis hyper souriante. Mais par contre, c'est super dur en général ce que j'écris. Et bah parce que j'ai une part sombre en moi et, bah et qui est très bien comme ça. Mais voilà, mes parents, ils ont toujours été un peu traumatisés. Et mon père, il a du mal souvent à me lire, alors que c'était mon premier à m'accompagner, à me relire, à me proposer à me faire des suggestions, etc. Et tu vois, L'Ombre Zone, par exemple, il a eu. C'était trop. Voilà, c'était. Déjà, je pense que c'est pas son style, le genre de livre qu'il aime. Mais en plus, c'était un peu compliqué. Alors que bon, enfin, ouais. Moi, en plus, on n'a pas conscience nécessairement de ce qu'on met dedans. Hein. Des fois, c'est des années après, on se dit, ah ouais, tiens, effectivement, il y a cette part-là de moi que je ne me rappelais pas avoir exprimée à cet endroit-là. Et c'est aussi pour ça que tu vois ton podcast, c'est j'ose dire que tu es écrivaine. Enfin, j'ai osé dire, je sais plus
Si
exactement le
vous êtes,
titre.
oui, si vous êtes écrivain, osez le dire, pardon.
Ouais,
Ça
j'adore parce que ton premier épisode c'était là-dessus ou le deuxième, je ne sais plus. Et
ouais.
je me suis dit mais oui, mais c'est génial parce qu'effectivement c'est le premier pas et c'est le pas le plus c'est un pas hyper difficile. Parce que bah, on a l'impression de devenir transparent, alors qu'en fait, personne ne peut savoir exactement ce que tu as mis de toi dedans. Même toi.
Oui, c'est ça. Le dosage. Oui, c'est vrai. Oui,
Ouais.
non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais par rapport à mon père, je pense que s'il a été si blessé aussi, enfin, je sais que moi, je peux faire ce que je peux pour le rassurer et tout ça, mais je sais que s'il a été si blessé, c'est qu'il s'est jamais pardonné certaines choses
Ouais, bah
et que
oui.
ça lui rappelle ça, tu vois. Donc je me dis, je peux faire ce que je peux. Au final, s'il ne se pardonne pas lui-même, je peux pas le faire à sa place. Non,
Ça
je
lui
l'ai déjà fait,
appartient.
mais ouais, c'est ça.
Ouais. Ça lui appartient complètement. Et c'est bah voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on lâche prise en fait. C'est ça la
Ouais.
co-responsabilité. Toi, tu as réussi à métamorphoser, à passer au-delà de certaines choses. Et d'ailleurs, c'est réparé dans la ville en rose. Et à lui de faire le boulot aussi. Hein.
Comme quoi, ce podcast devient une source de coaching.
Ouais, non mais c'est ouais, c'est hyper intéressant le ouais, l'écriture c'est pas qu'un hobby quoi.
Non, mais moi, ça a toujours été ma thérapie, mais ouais. Ça
Ouais.
me parle.
C'est
Aïe,
ça,
aïe,
c'est
aïe.
sa thérapie, c'est aussi tisser des liens avec d'autres humains.
Moi, en plus, j'ai l'impression que je m'auto-coache des fois dans mes livres. Tu vois, genre La Ville en rose, je me suis auto-coachée et ça m'a fait grandir. Je n'étais pas la même personne. Je l'ai écrit en 3 mois, je suis pas la même personne. J'étais pas la même personne en juin et en septembre, tu vois. Et du coup, maintenant, j'ai pris goût. En plus, c'était le premier contemporain que j'écrivais. J'ai pris un goût. En ce moment, j'ai envie d'écrire des livres sur des gens qui réalisent leurs rêves parce que, tu vois, ça m'inspire en ce moment et je veux que ça me fasse grandir. Et je suis passionnée par ça, tu vois. Je finis La Chute des anges, je m'y mets.
Ouais, mais tu vois, c'est ouais, et ben en fait, oui, c'est marrant parce que ce que tu dis, ça évoque vraiment le coaching comme ce que tu disais. Parce que ça évoque un changement. En fait, comme tu as trouvé du sens en écrivant cette histoire, tu as changé d'identité. C'est l'échelle de Diels. C'est vraiment ça. Et ouais, c'est hyper intéressant. C'est pas du tout l'échelle de Diels. C'est la pyramide de Maslow. C'est les différents besoins.
Ah,
Quand
ça m'explique.
tu. Ouais, t'as d'abord les besoins physiologiques, les besoins. Enfin, une fois que tes besoins physiologiques sont, voilà, c'est. Et en fait, là, l'écriture, elle rentre dans la quête de sens et la quête d'identité aussi.
Ouais.
Donc, c'est pas étonnant que tu sois plus la même à la fin, forcément.
Oui. Bon, en fait, si je réfléchis, mais le passeur de rêve après les 10 tomes, c'est pareil. Moi, je sais
Ben
pas qui
oui, 10 tomes en plus.
non, après.
Et tu as quel âge déjà? 50, au moins 60 ans, je pense.
Au moins, et 23 ans et demi.
J'ai hâte de voir. Enfin, non, j'ai pas hâte. Prends ton temps. Tout ce que tu fais déjà, c'est énorme.
Bah, comme tu dis, hein, c'est ma quête de sens et j'ai trouvé le sens là-dedans à 15 ans et ça,
Ouais.
j'ai pas le choix en fait, juste.
Ouais. Et t'as tout organisé, t'as organisé toute ta vie pour ça, quoi. C'est ça, c'est très inspirant aussi, en fait. Ouais, je trouve.
Bah, c'était pas toujours facile, mais juste, c'est pareil, toutes les périodes où j'ai pas mis l'écriture en priorité, j'étais malheureuse comme les pierres, tu vois. Donc, c'est juste, c'est pas le choix, tu vois.
Ouais, t'as pas le
Et...
choix. Bah oui.
Ouais.
Ouais.
Après, j'ai quand même du soutien, enfin, j'ai de la chance parce que tu vois, j'ai pas des parents qui me comprennent pas et qui veulent absolument que je devienne avocate. Enfin, j'ai beaucoup de soutien autour de moi aussi. Enfin, je veux dire, je suis dans un milieu où j'ai de la chance quand même d'avoir.
Oui, où tu as su garder tout ce qu'il fallait pour pouvoir organiser ta vie comme ça.
Mélange des deux, sans doute.
Ouais. Mais tu réfléchissais au coaching à un moment donné aussi.
Oui, je me rappelle, on avait parlé justement quand tu avais commencé. En fait, tu m'as mis l'idée en tête. Je crois que c'est quand tu as commenté une de mes publications, je crois, l'année dernière. Tu m'as mis l'idée en tête. Mais je sais pas, j'ai pas beaucoup avancé dans ma réflexion à ce niveau-là parce que je suis focus vraiment sur l'écriture. Et je sais que, tu vois, des fois, je me pose la question, je me dis vraiment si j'étais. Hyper riche et que j'avais aucune obligation nulle part, je ferais quoi? Bah, je ferais ce que je fais maintenant, en fait. C'est comme ça aussi que je dirige mes actions dans la journée, en fait.
Bien sûr, ouais.
Mais d'ailleurs, je me posais la question, je ne l'ai pas noté dans mes questions, mais est-ce que comment tu arrives à gérer ton temps par rapport au coaching, d'un côté, ton métier encore, parce que tu es à 80%. Je ne savais pas si tu étais toujours prof à mi-temps, par exemple. Je crois que tu avais réduit tes heures pour faire la formation, justement. Et l'écriture, est-ce que tu arrives à placer l'écriture dedans? Parce que je suppose que c'est plus ta priorité, du coup.
Non, c'est plus ma priorité. Après, là, tu vois, suite à la formation, je suis passée moi aussi par une remise en question de mon identité profonde et ça m'a complètement bouleversée. C'est voilà, toute formation qui vient toucher à l'humain. Pour accompagner des humains, en fait, il faut aussi accepter d'être touché en retour. Sinon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas cohérent. Donc, je suis passée par une grosse phase de dépression dans le sens du vent, tu vois. J'ai eu un gros coup de mou, et même pour me lancer dans l'entreprise et tout ça, ce qui fait que je n'arrivais plus à rien faire. Et en même temps, du coup, j'ai perdu l'envie d'écrire. Et là, ça revient tranquillement, mais c'est vrai que En fait, je laisse les projets parce que j'en ai plein des projets en tête et en cours. Et du coup, là, je les laisse mûrir en moi. Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils. Et j'attends de voir lequel va m'appeler, tu vois. En ce moment, j'ai envie d'écrire La Fabrique d'une mère. Et puis, c'est au fil des conversations, tu vois. Voilà, c'est. Va émerger tel ou tel projet. Mais c'est vrai que là, le fait de mener de front l'entreprise plus le boulot de prof, plus retrouver son équilibre après une perte d'équilibre, ça me demande beaucoup d'énergie. L'écriture, là, pour l'instant, elle passe par. Bah, du coup, j'écris un journal parce que comme je dois écrire un mémoire pour ma formation. Alors, c'est des Canadiens qui font la formation, donc c'est un mémoire qui est cool, je trouve, à écrire parce que c'est pas hyper carré comme ce que j'ai pu faire en master. Et justement, je dois raconter mon parcours. Donc, je vais raconter ma vie. Donc, je suis très contente. Je m'y
Trop
mets
bien.
la semaine prochaine. Et ça va être ça, mon
Aussi,
retour à
j'adore
l'écriture.
raconter mes. Ah, super.
Et puis l'écriture, du coup, c'est une écriture, en fait, professionnelle, mais que j'adore, c'est l'écriture de ma newsletter. Et j'adore écrire la newsletter parce que là aussi, je raconte un peu ma vie. Et en même temps, en fait, j'essaie que ce soit utile pour les gens et de mettre du coaching dedans. Et voilà, ça, c'est mon temps d'écriture. Et c'est vraiment un temps, quand je le dis, je suis vraiment sincère quand je dis quand je m'adresse aux personnes qui sont abonnées à la newsletter, c'est vraiment, à chaque fois, je pense, en plus, il y en a certaines que je connais, donc je mets des visages, tu vois, je pense vraiment aux gens et puis aux conversations qu'on peut avoir quand ils me répondent et tout, tu vois. Et c'est un moment, voilà, c'est un moment d'écriture pour moi qui est chouette. Mais tu vois, pour l'instant, l'écriture de fiction, j'y suis pas revenue.
Après, voilà, c'est chaque chose
Je
à
sais
son
pourquoi.
mesure. Je comprends pour ta newsletter parce que Moi, j'ai mis du temps à trouver qu'est-ce que, comment. Enfin, je me suis dit, il faut que je fasse une newsletter parce que c'est un outil de communication qui est utile et qui vraiment porte ses fruits. Mais au début, j'arrivais pas à. Mais même jusqu'à il y a 2 mois, j'arrivais pas à savoir qu'est-ce que j'allais en faire, enfin, par quel bout le prendre. Et finalement, j'ai fini par. Je sais pas, je me suis dit, bon, allez, je me relance, je vais faire une fois par semaine et je vais essayer de m'y tenir. Et en fait, maintenant, j'adore. Trouver un peu l'angle à. J'arrive à trouver, je sais pas. Des fois, je me mets devant et je me dis, mais je sais même pas de quoi je vais parler. Puis finalement, ça vient tout seul parce qu'au final, ça reste de l'écrit et c'est naturel. Mais maintenant que je prends le temps de m'y mettre et que je sais finalement que je vais arriver à trouver un sujet et que bah, y a des gens qui sont vraiment intéressés. Ce qui est bien, c'est que je sens que les gens qui se sont abonnés sont vraiment intéressés, tu vois.
Oui,
Voilà,
oui.
je les ai pas. C'est pas comme Insta où tu suis quelqu'un comme ça, là, tu donnes ton adresse mail et tout.
Oui.
Je sais que les gens, ils veulent vraiment me suivre et du coup, ben, ça me donne confiance, je pense. Et maintenant, j'adore faire ça. Tous les mercredis, je suis trop contente d'écrire ma newsletter.
Ouais. Bah oui, en fait, c'est un format. Moi aussi, c'est pour ça que j'adore. C'est exactement ce que tu dis. On ne fait pas que mettre un like, c'est-à-dire qu'on. Les gens qui lisent, en fait, on voit les gens qui lisent chaque semaine et c'est très agréable. Et c'est un format, en fait, c'est un format intime,
Ouais.
la lettre quand même.
Oui, moi j'ai l'impression des fois de faire un genre de journal de bord en fait.
Oui.
C'est trop agréable. C'est un peu, ouais, c'est un peu mon bilan. Enfin, je me dis à chaque fois, bon, quelles sont mes réflexions du moment, qu'est-ce que j'ai envie de partager en plus grande, enfin, en développant plus que sur Instagram par exemple. Et souvent, ouais, j'arrive à trouver un sujet comme ça ou une anecdote. Enfin voilà, il y a des gens qui me disent, ah, j'ai trop ri en lisant ta newsletter et je suis en mode, bah, trop cool. Enfin,
Ouais, c'est trop bien. Puis comme tu te l'es fixé dans ton calendrier, toi, c'est ta technique, c'est ton moment. Moi, c'est le vendredi matin, j'écris ma newsletter de 9h à 9h30. Enfin, de 8h45 à 9h15, je mets une demi-heure. Et
ouais, moi je suis plus longue quand même.
ouais, après, c'est aussi parce que j'ai des rendez-vous après, souvent à 9h30. Donc, je me suis dit, bon, allez, t'es obligée d'avoir une demi-heure, tu sais, ça c'est.
Ouais. Mais en fait, je dis ça, mais les fois où je me suis dit, ah bah il faut que je parte dans une demi-heure, j'ai qu'une demi-heure, bah, je l'ai fait en une demi-heure finalement,
Oui.
dans le temps qu'on a en fait.
Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est plus que ça, c'est une loi de je sais plus
Une
quoi
loi,
sur le
oui.
temps.
Oui.
Ouais, exactement. Et c'est pas important de connaître le nom, l'important c'est de le savoir. Effectivement, le temps que tu te donnes, c'est le temps que tu vas mettre. Et parce que ça t'oblige à utiliser des stratégies d'efficacité. C'est ce que j'ai un peu fait dans le défi que j'ai lancé là, sur le temps, la trouve du temps pour écrire. C'est une des parties du défi, justement. Et moi, ma stratégie, c'est d'y penser avant. C'est-à-dire que j'emmène ma fille à l'école à pied. Et donc, en revenant, parce que à l'aller, c'est pas possible parce qu'elle est très, très bavarde. Donc, je peux pas penser en même temps. Donc, en revenant, je pense à la newsletter. Et je fais pareil quand j'écris des romans ou
C'est vrai.
une nouvelle ou quoi. Ouais, j'y pense avant.
C'est vrai que c'est ce que je fais aussi. Moi, je fais souvent en travail, du coup, que je fais un travail physique quand j'ai pas besoin de réfléchir. Quand j'ai pas un podcast ou un livre audio dans les oreilles ou de la musique, bah, des fois, même je stoppe et je me dis, tiens, je vais réfléchir à ça. Et c'est vrai que finalement, de réfléchir, ou quand je suis bloquée dans une scène, je me dis, bon, bah, j'y retournerai demain, mais je sais que dans la journée, je vais réfléchir à comment je vais débloquer pour le lendemain. C'est vrai que c'est cool. En plus, c'est sur des temps morts, entre guillemets, enfin, des temps où t'as
Ben
rien
oui.
d'autre à faire. Et ton corps est souvent en activité, donc ça aide le cerveau à se mettre en marche.
Ça ou la douche, c'est super.
La douche, c'est super. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mon vlog. J'ai dit, prenez une douche quand vous ne savez pas quoi faire.
Ben oui,
Ouais.
c'est ça. Tous les écrivains sont hyper propres.
Exactement.
Faudra que je fasse un podcast pour t'inviter.
Grave. On pourra en refaire après, ça n'exclut pas. Non, mais je trouve qu'on a beaucoup de points communs
Ouais.
sur la façon de voir les choses et même notre évolution finale. Je trouve ça trop bien.
T'as évolué vachement plus vite que moi. Hein. Moi, 23 ans, j'en étais pas là. Hein.
On me dit parfois que mais t'as que 23 ans, mais en fait, comme j'ai commencé jeune dans l'écriture, enfin, je veux dire, et que j'ai été très très assidue,
Oui.
pas par ambition, mais juste parce que. Enfin, par ambition personnelle, pour le coup, parce qu'à 16 ans, je me suis dit, bah, je vais écrire une saga comme Harry Potter et je veux juste être fière de l'avoir fait. Et du coup, je me suis lancée en mode, bah, challenge personnel, tu vois. Du coup, j'ai juste eu les réflexions que je pense tout le monde a, mais plus vite parce que j'ai été perdue et que du coup, voilà, c'est ça, c'est juste ça, je pense.
Puis tu étais un peu insouciante, je pense aussi. Vraiment, ça compte vachement.
Oui, c'est vrai. Oui, j'avais pas de... En fait, si, par contre, je me suis vraiment posé la question très vite à 15 ans si je voulais être écrivain. Je me suis... Enfin, il y a des gens autour de moi qui m'ont posé la question. Par contre, à ce moment-là, je disais non. Je disais non, je voudrais jamais être écrivain de métier parce que je me suis dit, je veux pas écrire sous pression.
Juste, oui.
Voilà. C'était ma première réflexion. Je me disais, franchement, juste écrire... Enfin, j'avais peur de perdre mon...
Ben ouais, moi je suis comme toi là-dessus. Ouais.
Voilà. Mais en plus, à 16 ans, j'étais très, très, très stressée au point que je suis tombée malade et tout. Et donc, au niveau des cours, du bac et tout, je me mettais une pression pas possible. Donc, je me suis dit. Donc, à ce moment-là, l'écriture était ce qui m'aidait. Donc, ça me paraissait insensé, en fait, de reporter la pression sur l'écriture. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de trouver un vrai métier, entre guillemets, et comme ça, de laisser l'écriture au plan du loisir, et puis après, j'ai changé d'avis en étant à la fac et en me rendant compte que j'étais ultra frustrée quand j'avais pas 3 heures d'écriture dans ma journée.
Ouais.
Mais c'est vrai que du coup, forcément, au début, j'étais insouciante parce que je voulais rien en faire. En fait,
insouciante, ouais, mais même, je pensais au niveau de l'écriture. C'est-à-dire, tu t'es dit, je vais faire une saga, j'en serais fière. C'était juste ça qu'il fallait se dire. Tu t'es pas dit, ouais, mais comment je vais m'y prendre? Et puis après, je vais peut-être avoir le syndrome du milieu. Et puis après, je vais peut-être... tu t'en entends parler quand tu le vis. Mais oui, en fait, c'est ça qui est... C'est comme ça qu'il faudrait se lancer si on pouvait, quoi. Dans tout. Enfin, moi,
d'avoir découvert Instagram après avoir fini d'écrire cette saga. Et tu vois, d'avoir découvert Bookstagram, j'avais 21 ans. Donc, j'avais déjà 6 ans de pratique derrière moi. Donc, ça juste... Si j'avais découvert peut-être Bookstagram et tous les tutos et toutes les trucs de conseils d'écriture avant, peut-être que ça m'aurait bloqué. Alors que en fait, là, je m'en fichais, quoi.
Bah oui, ouais, complètement. Non, j'allais juste dire quand tu me dis que moi je t'ai dit je vais être coach littéraire et puis que 2 mois après je m'inscrivais à une formation. En fait. Ouais, je suis un peu comme ça, moi. Je me rends pas compte. Mais même dans mon boulot de prof, souvent, je me dis « Ah ouais, je vais faire tel projet, ça va être génial. » Puis arrivé dans le projet, je me dis « Ah ouais, il y a tout ça à faire quand même. » Mais sur le coup, ça me fait pas peur, tu vois, parce que je pense comme toi, t'es assez fonceuse dans ce... Tu dis « J'ai envie de faire ça. » J'y vais, en fait.
Ouais, je pense que c'est une qualité, ouais.
Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne, quoi. Après...
Oui, mon père m'a dit un jour, t'es une tête brûlée. Il trouvait que l'expression était bien. Parce qu'à la fois, la tête brûlée, genre, tu vois, vraiment, elle fonce. Mais des fois, elle brûle. Elle se consume, quoi. C'est ça le revers de la médaille, entre guillemets. Mais... Ouais.
Et le revers de la médaille, ouais, il est toujours sur la médaille, quoi. C'est ça qui est cool. Putain, c'était le titre de mon prochain post Instagram. Je dévoile tout.
Alors, par contre, je sais pas quand sortira cet épisode, donc peut-être que tu auras déjà fait ce post.
Ok, c'est bon.
Oui, tu voulais finir en te demandant de parler un peu des services que tu proposes, du coup, pour faire ta petite
pub. Ok. J'adore, en plus, parce que je découvre le marketing et franchement, c'est quelque chose que je... Alors, à la fois, en fait, j'ai envie de m'amuser, voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Le plaisir avant tout.
Mais moi, tu vois, quand j'ai découvert le... Mais oui, c'est ça. Et moi, quand j'ai découvert le marketing, je me suis dit, c'est mort, c'est pas pour moi. Je vais détester, ça va mettre la pression, je vais détester, je peux pas. Et puis, en fait, j'ai commencé à faire parce que je me sentais obligée.
Ouais.
Et en fait, j'en ai discuté avec ma belle-mère, elle m'a dit, mais tu sais, je pense que tu vas aimer parce que le marketing, c'est de la psychologie. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en vrai, c'est vrai, t'as raison. Et maintenant, je kiffe parce qu'en fait, je m'interroge juste sur les gens, comment ils fonctionnent. Et en faisant de façon à m'amuser, finalement, c'est fun. Mmh.
Ben, c'est ça. Alors moi, je garde toujours en tête cette idée-là quand je fais du marketing, que j'essaye en tout cas. Et puis, je garde toujours en tête un truc hyper important pour moi, c'est que ce que je propose, c'est il faut que je sache que c'est de qualité. Sinon, si j'y crois pas, je vois pas pourquoi les autres y croiraient. Et comme je te disais tout à l'heure, l'une de mes valeurs, en dehors de la créativité, c'est le professionnalisme. Si je propose pas quelque chose de professionnel, bah, en fait, je le propose pas. C'est même pas, je me sentirais mal de le faire, enfin, je me sentirais décalée, quoi. Donc, il y a ça. Pour répondre plus précisément, parce que c'est pas du tout concret ce que je te raconte, enfin, c'est une question de valeur, donc c'est important, mais c'est pas concret. En fait, dans mes valeurs, il y a la créativité, le professionnalisme et le rire. Parce que pour moi, voilà, c'est les trois choses auxquelles je pense quand je crée un accompagnement ou un programme. Donc, j'en ai pas des tonnes, j'ai un accompagnement et un programme. Et en même temps, ouais, après la dépression du vent, là, bah, en fait, je m'y suis vraiment mise. J'ai vraiment reconnecté avec l'envie de l'entreprise d'accompagnement en coaching en janvier. Donc, du coup, c'est pas mal, je me dis. Donc, ouais, quand je fais les accompagnements, il y a toujours ça derrière. C'est-à-dire que je veux que les gens aient de la qualité, que ça leur soit utile. Et en même temps, comme c'est du coaching, pour moi, l'un de mes mantras, c'est pas grave. Mieux vaut en rire, en fait. Et on va avancer en détendant un peu tout ça, quoi. Le lâcher prise, c'est facile de dire, bon, allez, c'est bon, lâche prise maintenant, tu sais, t'as envie. En plus, quand on me dit ça, lâche prise, bah non, bah du coup, je lâche pas prise, hein. Tu sais, quand mon conjoint me dit, mais calme-toi, ben non, en fait. Ça me calme pas. Arrête tout de suite. Donc, bref. Et donc, du coup, les accompagnements. Alors, le tout premier, c'est un accompagnement de 6 écrivaines et écrivains. Je les accompagne, c'est le groupe des aventurières, enfin, avec un point au milieu. Et je les accompagne pendant 6 mois. Donc, c'est une offre qui est amenée à évoluer, je pense, parce que là, pour l'instant, telle qu'elle est, je les accompagne donc sur 6 mois. On a un groupe Discord. Sur lequel ils peuvent discuter, dire où ils en sont, faire des partages. Les partages, ça peut être à la fois positif, mais aussi des coups de gueule, des ras-le-bol, voilà. Et une fois par mois, on se retrouve, maintenant sur le Discord, parce que j'utilisais une autre plateforme, mais c'était pas terrible. Donc sur le Discord, la dernière fois, on s'est retrouvés, et là, je les coach individuellement, mais devant les autres. Donc, en gros, il y a 20 minutes consacrées à chacune des personnes. Et pour moi, c'était hyper important. C'est pour ça que c'est un groupe uniquement de 6 personnes. J'avais ouvert que pour 6. Et parce que je voulais absolument qu'il y ait un accompagnement individuel à chaque fois. Et là, dans la manière dont ça se déroule, ça dure à peu près 1h30, 1h50. Plutôt 1h50. Et parce qu'on s'étale un peu, mais voilà, j'apprends aussi à gérer le temps. Et donc, chaque personne vient avec une situation. Donc, par exemple, cette semaine, j'ai pas du tout trouvé de temps pour écrire, tiens, voilà, au hasard. Et j'en ai ras-le-bol parce que je trouve pas de temps et ça me stresse, etc. Et donc, les autres sont invités à donner leur avis, peut-être à apporter, à donner une expérience, un conseil et tout ça. Donc, ils échangent. Et puis moi, au bout d'un moment, je leur dis, bon, maintenant, je vais te coacher. Et donc, sur quelques minutes, donc c'est du coaching flash, je les questionne sur ce que j'ai retenu, sur ce qui peut leur permettre d'avancer un peu plus, faire un pas de plus, etc. Et ils repartent tous avec un pas à faire sur le mois à venir. Donc ça, c'est c'est en direct. Et après, sur le Discord, j'ai créé un salon qui s'appelle SOS. Donc, si jamais il y a une situation vraiment problématique à un moment donné, eh bien, ils mettent une question en SOS et moi, je les coach par écrit, du coup. Donc ça, je trouve ça... j'aime bien parce que ça me permet de maintenir le lien. Et en même temps, par leur partage, les autres aussi vont intervenir. Il peut y avoir d'autres types de questions que des questions... vraiment pour la coach que je suis, quoi. Donc c'est, ça, c'est chouette. Donc ça, c'est de janvier à juin. Et je pense que je le relancerai. Je ne sais pas trop si je le relance dès juillet, mais j'aimerais bien. Je ne sais pas encore trop comment va évoluer la formule, mais parmi les coachés, il y en a une qui a gagné le prix. Enfin, l'année dernière, j'avais fait un petit concours 30 petits pas d'écriture, là. Et elle avait un challenge, quoi. Et elle avait gagné 3 heures de coaching, qui se sont transformées en 4, parce qu'en fait, il y a une séance que je fais de 2 heures. Et donc, elle fait ses heures de coaching qu'elle a gagnées durant l'accompagnement des 6 mois. Et je trouve que c'est pas mal aussi d'ajouter éventuellement du coaching individuel d'une heure, où on prend pleinement le temps pour aborder peut-être des situations plus larges. Je te parlais tout à l'heure de... Bah, gérer aussi l'environnement, etc. Donc ça peut être intéressant. Ou gérer des émotions qui ne sont pas faciles à gérer, parce que parfois une émotion, elle peut se défaire, enfin elle peut se renverser en quelques minutes de coaching, mais parfois il faut un petit peu plus de temps parce que c'est bien ancré. Donc voilà, donc ça c'est le premier accompagnement. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai envie de créer des programmes, enfin j'en ai créé un du coup, enregistré, qui s'appelle donc sous forme de défi, parce que ça rejoint ma valeur du rire et du jeu. Et c'est un défi sur 7 jours où le but, c'est de trouver du temps enfin pour écrire sans bouleverser sa vie. Parce que pour moi, c'était mon problème numéro 1, de trouver ce temps, de le prendre aussi, parce qu'on peut aussi l'avoir et ne pas le prendre. Et je me suis dit, ben, pour trouver du temps pour écrire, les gens qui n'ont pas de temps, ils ne vont pas avoir envie d'avoir un programme qui dure 10 ans. Donc, je vais faire un défi sur 7 jours. Et avec la promesse que ça ne dure qu'une demi-heure, c'est-à-dire que j'ai fait des vidéos qui durent entre de 2 à 12 minutes max. Et puis après, il y a un questionnement avec un e-book, et donc, qui permet en fait, d'aborder plein de choses pour trouver du temps. Donc les gens sont invités à s'observer, à apprendre à dire non, à questionner la procrastination, à questionner le perfectionnisme, ce genre de choses, à voir aussi où sont les ressources internes et externes, donc les talents qui nous sont propres, les ressources externes auxquelles on pense pas toujours, et voilà. Donc là, je suis contente. Okay. J'ai 3 personnes qui ont acheté le défi.
C'est assez inédit comme... Ouais, non, je trouve que c'est bien que tu as trouvé des idées un peu innovantes. Tu as trouvé ta façon à toi de coacher.
Et tu vois, et le défi, j'ai oublié de dire, mais en fait, une fois qu'on en achète un, on peut inviter quelqu'un à le faire avec nous. Il est offert gratuitement à la deuxième personne, et ça, je le laisserai. Parce que ça fait partie de mes valeurs aussi, je trouve que c'est intéressant. Et quand j'ai décidé d'être coach, je me suis dit, il y a plein de coachs littéraires autour de moi. Il y en a plein qui se disent coach littéraire. Et en réalité, en observant un peu plus les offres, je me suis aperçue que ce n'est pas du tout du coaching. C'est du mentorat. Voilà, c'est de l'accompagnement sur la technique d'écriture. Ça peut être des éditeurs et des éditrices qui vont accompagner. Alors, ils accompagnent aussi forcément quand on travaille aussi sur la technique. On va accompagner aussi sur la motivation, sur l'organisation et tout ça. Et je trouve ça important. J'allais dire, je ne dénigre pas, mais je vais dire quelque chose de positif. En fait, je trouve ça important aussi d'être accompagnée sur l'écriture. Et là, j'ai observé, je me suis dit, moi, je viens en complément. C'est-à-dire que les écrivains ou écrivaines, ils ne pensent pas tout de suite qu'en fait, tout est dans le mindset, dans le corps, etc. Et je vais compléter ça. C'est-à-dire, souvent, on croit qu'on manque de technique, alors qu'en fait, on manque de confiance en soi. ce qui est différent. Donc, voilà. C'est ça qui est inédit, et c'est vraiment, moi je veux montrer ma particularité vraiment là-dessus. Que les gens comprennent que c'est ça.
Je trouve ça super que tu aies pu... au lieu de te dire, il y a plein de coachs, qu'est-ce que moi je peux faire qui complémente ou qui... Ouais, je trouve ça trop bien, qui se démarque.
Disons que je me sentais pas, pour te dire, je me sentais pas par rapport à, tu vois, par exemple, ouais, c'est Cécile Duquesne, mon modèle en fait. Au départ, elle m'a mentorée et tout ça, et elle fait très bien la différence entre le mentor et le coach. Elle dit coach par facilité, elle le dit, elle utilise d'ailleurs plus mentor maintenant. Mais qu'est-ce que je voulais dire sur Cécile? Je me sentais pas à l'aise de faire ce qu'elle faisait en fait. ce qu'elle fait, elle le fait super bien et avec ses, enfin avec son expérience d'autrice qui est bien plus grande que la mienne. Donc je me vois pas accompagnée sur les techniques d'écriture, tu vois, pour être prof de lettres, j'ai fait un master, quoi. J'ai pas, donc là, être écrivaine, c'est pas parce que j'ai publié 3 textes que finalement je peux accompagner sur la technique d'autres personnes. Enfin, en tout cas, je me sens, c'était pas ça qui m'intéressait. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était.
Puis même en tant que coachée, on choisit un coach, mais une personne.
Oui.
Donc en fait, même si tu présentais les mêmes choses qu'elle,
ouais, tout à fait. C'est pas la même personne. Exactement. Mais ça, c'est sûr. Mmh. Mmh. D'ailleurs, je suis trop contente parce que Cécile, du coup, a proposé qu'on s'entraide avec plusieurs personnes qui accompagnent les écrivaines et les écrivains. Et au début, elle dit « Ah, je sais bien qu'on est concurrentes ». Et je lui ai dit « Ben non, mais pas du tout. On est toutes complémentaires, en fait. C'est ça qui est chouette, là, de pouvoir discuter entre collègues, en fait. »
Exactement. Comme les auteurs, en fait.
Bah oui.
On n'est pas...
Il y a de la place pour tout le monde.
Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Bah non, mais j'ai vachement parlé, du coup. Non, merci à toi.
Non, mais c'était long, mais je m'en doutais.
Oui, bah oui.
J'ai encore plein de choses à dire, mais bon, on va pas faire un podcast de 3 heures.
Non, et puis on va se retrouver en vrai bientôt, donc on pourra continuer la discussion, ça va être chouette.
Ah, j'ai trop hâte. Mais c'est dans... Et oui, c'est dans un mois.
Bah
un
oui, plus voilà, ouais.
C'est trop bien. En plus, on s'est jamais vu en vrai encore.
Bah oui. Ah ouais. Ouais, ça c'est trop bien. Ouais, non, mais merci beaucoup. Je te remercie parce que c'était très riche comme.
Je savais que ça serait trop bien. Et je mettrai tous tes liens du coup en description de l'épisode, évidemment.
Ouais, ça marche.
On citait tout ça. Et puis, bah, on sait jamais. Peut-être qu'on fera un autre épisode. Ça pourrait être intéressant. On a toujours des sujets.
Bah oui. Donc, si on utilise un autre angle d'attaque, on verra. Ça marche.
Bah, merci beaucoup. Super. Gaëlle.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et si vous êtes écrivain, osez le dire.